Bonjour, Nathalie De Brock. Ces femmes qui sont allées au bout de leurs rêves. Des parcours atypiques, des basculements de vie qui nous démontrent qu'au féminin, tout est possible. Aujourd'hui,
Marie-Pierre Lejeune.
Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Nathalie.
Alors, votre témoignage, à vous, est peut-être l'illustration concrète de ce que j'appellerais un destin extraordinaire. Parce qu'un beau jour, enfin pardon pour l'expression un beau jour, hein, mais donc un beau jour, vous êtes passée de l'autre côté du miroir. Racontez-nous.
Avant de raconter mon histoire, je voulais vous dire que j'ai repensé au titre de votre émission, au féminin Tout est possible. Mon histoire... J'en suis l'actrice principale, mais j'en suis pas l'héroïne. Les héroïnes, ce sont deux femmes. Elles s'appellent Michèle et Nicole. Et ce sont des soignantes. Je pense que ce sont des infirmières de l'hôpital de Quimper. Voilà, parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose dans cette histoire que la vivre et que faire un grand voyage, effectivement. J'ai 60 ans. Il y a une vingtaine d'années, j'étais seule un soir à la maison. On vivait à ce moment-là dans une maison isolée à la campagne. Mon mari était au travail. Il finit tard. Et mes trois jeunes enfants venaient de se coucher et en préparant mon dîner, celui de mon mari, j'ai gobé un coquillage cru et sur ce coquillage, il y avait une petite bactérie. Et 30 minutes plus tard, ma soirée a basculé, j'ai eu des démangeaisons terribles, la peau écarlate, une énorme barre dans la poitrine et je ne le savais pas encore à ce moment-là, je faisais un choc anaphylactique. Mon mari est rentré du travail tard, il m'a retrouvée sans connaissance au sol. Et là, c'est le premier, alors on dira miracle, prodige de la soirée qui n'en manquera pas. Mon mari est infirmier, donc en quelques secondes, il a compris, évalué la situation. Le deuxième prodige, c'est qu'il est infirmier à domicile, qu'il est rentré avec sa voiture de service et que dans sa mallette, il y a de l'adrénaline. Donc il a eu le temps de me piquer avant, quand j'étais sans connaissance, avant d'appeler les pompiers. Les pompiers sont arrivés, mon... immédiatement mise sous perfusion et conduite à l'hôpital de Quimper à toute vitesse. Moi, je ne comprenais plus rien, je n'avais pas de notion du temps. Je ne comprenais pas pourquoi on m'emmenait à l'hôpital alors que j'avais repris connaissance, que mes cahiers n'étaient pas corrigés pour le lendemain, que je n'avais pas lancé la lessive du soir. On arrive aux urgences. Alors, j'ai fait une entrée VIP. Pas de formalité au secrétariat, même pas de passage par la salle d'attente. Direct, prise en charge. Mes pompiers sont venus me faire un petit coucou. Alors je dis mes pompiers parce que je les connaissais tous. Ce sont des pompiers volontaires de Briec. Ils étaient tous parents d'élèves dans mon école. Mon mari ne pouvait pas être là puisqu'il gardait les enfants. Et donc ils sont venus me dire au revoir avant de partir. J'ai eu deux soignantes pour moi seule. Elles m'ont mis sous perfusion, elles m'ont déshabillée. Je me laissais faire, c'est tellement bien quand vous êtes mère de famille, que vous travaillez, que quelqu'un s'occupe de vous et vous chouchoute. Et moi, je commençais à m'endormir, je m'enfonçais dans le sommeil et j'étais bien, je me sentais en sécurité, je pensais plus au lendemain. Vous savez, quand vous êtes malade et que vous lâchez prise et que vous vous dites, bon, il n'y a rien d'organisé pour demain, mais c'est bon, là, je ne peux plus, j'ai donné ce que j'avais. Demain, ben, voilà, demain est un autre jour. J'avais plus mal nulle part, j'avais plus de soucis, j'oubliais que j'étais sur un brancard. Mes infirmières parlaient doucement, elles avaient des gestes tellement doux. Tout était merveilleux, sauf qu'elles n'arrêtaient pas de masticoter. Elles posaient des questions, elles prenaient de l'attention. Et elles n'arrêtaient pas de parler. Elles me demandaient ce que j'avais mangé, comment s'appelaient mes enfants, où ils étaient à l'école, pourquoi j'achetais mon poisson dans des grandes surfaces. Et comme elle n'avait aucune mémoire, toutes les 10 minutes, ça revenait. Elle reposait les mêmes questions. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais fichez-moi la paix. Si vous saviez tous les deux, comme je vis un moment incroyable. J'avais jamais été aussi bien de ma vie. Je ne sentais plus mon corps. J'avais l'impression d'être sur du coton. Je flottais dans quelque chose qui ressemblait à un cône, rempli de coton, dans une lumière très, très douce. C'était éclairé de l'extérieur. Et il y avait... quelque chose, une force très douce qui me poussait vers l'extrémité du cône. C'était doux, c'était lumineux, les sons étaient feutrés. J'avais juste envie, la seule chose qui n'allait pas, c'était la lumière. Je voulais dire à mes infirmières, éteignez la lumière, fermez la porte. S'il vous plaît, juste laissez-moi dormir. À un moment, j'entends une voix qui parle visiblement au téléphone plus fort que d'habitude et qui dit, Renan, on est désolé, mais on a besoin de toi. Et là, j'entends des voix qui parlent, mais votre chez, je ne sais même pas tendre l'oreille, je voudrais juste dormir, je veux qu'elle s'en aille. Et à un moment, une des infirmières revient vers moi avec son téléphone, elle me parle, elle vérifie des trucs, je ne sais pas trop quoi. Je lutte pour plus ouvrir les yeux, pour plus répondre, et ça y est, elle a compris, elle s'en va. Et je l'entends qui dit, bon sang Renan, tu sautes dans tes chaussons, on est en train de la perdre. Et alors là, je me dis, mais on est deux malades là dans la pièce, et la vieille dame à côté de moi ronflait, et je réalise ce qui est en train d'arriver. Et j'ai envie de leur dire, mais oh les filles, mais ça va pas du tout, là, vous êtes en train de perdre qui? À la fois, ça dure une demi-seconde, et c'est une éternité ce qui vous tombe dessus à ce moment-là. Infirmière me prend par la main et elle me dit, allez, on essaye de tenir, on va s'en sortir. Et à ce moment-là, il y a une voix d'homme qui arrive, forte. C'était très troublant après plusieurs heures passées vraiment dans une atmosphère très feutrée. J'ai l'impression qu'ils allument toutes les lumières de l'hôpital au-dessus de mes yeux. Je sens le froid du métal sur ma poitrine et à une vitesse incroyable, je fais une espèce de bond en arrière dans mon cylindre, dans mon cône. À l'extrémité de la petite source de lumière rétrécie, à la fin, c'est plus qu'une petite tête d'épingle. Les parois sont encore douces et enveloppantes, mais je sens plus cette chose qui me poussait ou qui me portait vers l'avant. Et il fait froid, il fait tellement froid, le cône est vide. Et à ce moment-là, il me reste une absolue, une immense, une frustration, mais indicible. Et malgré tout ce qui m'attend à la maison, j'ai trois jeunes enfants, j'ai un mari aimant, mes proches, j'aime mon boulot, ma vie n'est pas difficile, et à ce moment-là, 40 ans, je pleure de désespoir parce que j'ai l'impression qu'on vient de me fermer au nez la porte du paradis. Au petit matin, quand tout, voilà, il y a un moment, tout s'arrête, j'ai dégonflé, je suis dans une chambre avec des petits capteurs un petit peu partout, et j'essaie de faire le bilan des heures qui viennent de passer, et j'ai honte de moi. J'ai honte parce que je me sens ingrate vis-à-vis de ces deux femmes qui ont fait pendant la nuit tout ce qu'elles pouvaient pour me tenir la tête hors de l'eau. Et elles l'ont fait avec une intelligence, avec une délicatesse. Et à un moment, elles m'ont dit, on s'en est sorti. Et qu'elles m'associent à ce « on » alors que je n'avais rien fait. Et qu'au contraire, si j'avais pu donner des coups de pied pour qu'elles me laissent partir, je l'aurais fait. Mais ce « on » qui nous réunissait toutes les trois, c'est un « on » extraordinaire. Et alors, tout d'un coup, je me dis, c'est un cadeau incroyable que la vie m'a fait. C'est une nouvelle vie, c'est « je vais être la meilleure des mères, je vais être la meilleure des filles, la meilleure des collègues ». Bon, alors après, voilà, la vie reprend le dessus, c'est-à-dire que ça n'a tenu qu'une semaine.
Je ne peux pas croire que ça n'ait pas eu des incidences sur la vie d'après, quand même. Bien sûr que vous avez gardé quelque chose de cette espèce de, je ne sais pas, d'infini. Il y en a beaucoup qui parlent d'amour inconditionnel qu'ils ont découvert. Est-ce que vous ne l'avez pas quelque part quand même en vous depuis?
Si, évidemment. Ça n'a pas bouleversé de fond en comble ma vie. Comment dire? La vie a pris de l'épaisseur. Les choses de la vie ont pris de l'épaisseur. Je n'aime pas ce mot-là, mais je crois que je conscientise...
Une intensité peut-être?
Oui, voilà, oui, parce qu'épaisseur, ce n'est pas le vrai mot. Mais à la fois, cette intensité, elle ne se retrouve pas dans tous les moments de la vie. Je suis, je peux aussi me mettre en colère, perdre du temps dans des...
Mais vous êtes humaine, tout simplement.
Voilà, je suis humaine. Mais je pense que cette expérience, elle ruisselle. Elle ruisselle sur ma vie et elle la fait que j'y vois du merveilleux. Je n'ai pas voulu aller voir. Lire des témoignages. Je sais que ça existe, les expériences de mort imminente. J'ai attendu, je ne voulais pas partager parce que j'avais peur des réactions des gens. Donc j'ai attendu des mois et conséquent, je suis allée voir d'autres témoignages et je suis extrêmement surprise de voir la permanence des mots utilisés, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quelle que soit l'absence de religion, les mots sont quasiment les mêmes. Et ça, c'est juste incroyable. Et cette part de merveilleux, elle ruisselle. En fait, je l'accepte.